Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous retrouvons notre économie en folie et nous retrouvons Bernard. Bonjour.
Et bonjour à tout le monde.
Aujourd'hui, on va reparler d'actualité et d'économie. On va parler de libre-échange, on va parler aussi des poids économiques dans le monde. On va parler de beaucoup de choses finalement, mais toujours sous notre houlette la folie.
Ah, si possible, parce que c'est le monde qui est fou.
Oui.
Nous, devant notre poste de radio, en écoutant l'économie en folie, en fait, on est raisonnable.
Ah, mais tout à fait, je suis d'accord. Le libre-échange, c'est quoi ?
Ben, c'est la liberté de faire le commerce dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire, je peux t'acheter quelque chose librement, et tu me vends quelque chose, et tu m'achètes quelque chose, et ce mouvement économique, sans véritable barrière. Les barrières sont apparues progressivement dans l'histoire, à travers les doigts de douane ou simplement même des interdictions. Et actuellement, on vit une période justement où on remet en cause violemment, dans certains cas, les accords dits de libre-échange qui ont été signés. L'exemple le plus criant, le plus d'actualité, c'est les Américains. Les Américains nous menacent de ceci, de cela, si on les appuie pas sur un problème politique, et ils menacent, et ils vont peut-être le faire, de taxer, par exemple, les voitures européennes à leur entrée aux États-Unis. De la même façon, ils ont dit pour la France, on va vous taxer le fromage. C'était une mesure économique, certes, mais aussi une mesure politique de menace. Le libre-échange, c'est cette possibilité d'échanger. Cette possibilité d'échanger, elle est historique dans notre monde. Quand vous ne fabriquez pas et que vous ne pouvez pas cultiver les oranges, eh bien vous les achetez ailleurs. Et la personne ou le pays ou la zone qui vous vend les oranges, peut-être qu'eux, ils ne peuvent pas cultiver des patates. Eh bien, vous leur vendez vos patates et vous achetez leurs oranges. C'est ça. Dans l'histoire du monde, quand on va très très loin dans la préhistoire, c'est étonnant. Des siècles, des siècles, des siècles avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve, par exemple, dans le sud, au bord de la Méditerranée, on trouve des morceaux d'ivoire venant d'animaux marins qui étaient, en fait, attrapés en Suède et en Norvège. Cette partie-là descendait et se répandait parce que c'était un bien précieux. Et on en retrouve un peu partout, y compris en Égypte, d'ailleurs. On se rappelle à travers la radio, les émissions, tout ce qu'on a lu, la route de la soie, la fameuse route qui traversait toute l'Asie pour venir en Europe. Route de la soie, eh bien en Europe, on n'avait pas de soie. On ne savait pas la faire à l'époque. On n'avait pas les vers à soie. Eh bien, on allait l'acheter là-bas. Et là, ça passait par l'intérieur des terres, la fameuse route de la soie, et ou par la mer avec la circulation de navires. La liberté d'échanger a toujours existé parce que c'était... Chaque partenaire devait être gagnant. Ce n'est pas toujours le cas,
oui,
bien entendu.
En effet.
Et puis ensuite, ce qui apparaît, c'est des mesures qui vont contre pour des raisons financières, développement local, on va le voir. On va certainement en reparler. Mais pour reprendre ce problème du libre-échange, moi j'aime bien citer l'exemple de notre région volvestre, et en particulier la vallée de la Rize, la vallée du Volp, qui au XIXe siècle fabriquait des draps, et même avant. Il y avait toute une industrie, d'ailleurs, importante, dont il y a de bons restes à travers les maisons de ceux qui étaient les propriétaires, les commerçants. Eh bien, les draps qui étaient fabriqués dans le Volvestre, on les retrouvait un peu partout en Europe. On les retrouvait aussi en Italie, par exemple, qui était un pays où il y avait du textile. C'est un élément très ancien, le commerce. Et ce commerce se fait selon la théorie de l'avantage. De l'avantage relatif.
Oui.
Là, je suis plus efficace que mon voisin, donc je vais pouvoir lui vendre.
Qu'est-ce que c'est qui a fait justement tomber ce libre-échange ? Est-ce que c'est le système monétaire, et là on y va encore plus maintenant, vers ce système monétaire virtuel ?
Le virtuel n'existait pas trop.
Oui,
parce
à l'époque,
c'est,
oui.
C'est vrai.
Oui.
Mais dans le libre-échange, effectivement, les autorités locales, le roi, le seigneur et plus tard l'État a dit « Oui, mais ça nous coûte cher, on pourrait faire mieux, on pourrait ceci. » Donc, prendre des mesures restrictives. L'exemple, dans l'histoire, on a vu l'Angleterre prendre des mesures restrictives d'importation de céréales européennes. Mais là, je vous parle du XVIe siècle.
Oui, oui.
Pour que, quelque part... ces agriculteurs puissent vendre leurs céréales. Oui, dans un avantage. Ailleurs, ça a été une mesure pour, effectivement, leur faire payer des impôts sur rentrer des recettes. On le voit sur plein de mesures dans l'histoire. Pour revenir sur la monnaie virtuelle, à quel moment la monnaie va devenir virtuelle? C'est ça aussi le vrai problème. À l'origine, la monnaie, c'était la manière de reconnaître sa dette.
Oui.
On reconnaît que je te dois ça. Et donc, à partir de ce moment-là, bien, si quelqu'un me paye, en fait, il va te payer à toi. C'était tout ce transfert. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une monnaie virtuelle. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a plus les pièces et les papiers et les billets de banque. Ils sont en voie de disparition. Et ça devient, on la tient pas, on la touche pas.
Est-ce que c'est un moyen d'appauvrir les gens, justement, les plus pauvres?
Peut-être. Certains sociologues disent que c'est effectivement un moyen d'appauvrir, puisque ça demeure virtuel, on ne le touche pas du fait. Parce que finalement, on est content, on a une paye, on prend un billet de banque. Il faut revenir à la nature humaine. On prend un billet de banque, on l'a, on le met à la poche, on va faire quelques courses, on le donne pour payer, on va nous en rendre peut-être un peu de monnaie, on le touche. La monnaie, c'est du concret. On voit tout de suite qu'en avoir, ça a du sens. Ne pas en avoir, c'est un embêtement.
Ah oui, tout à fait.
Et donc, c'est très, très, très compté. À partir du moment où ça devient virtuel, on ne la voit plus, on ne la saisit plus. Tout
on
devient
a
virtuel.
On n'a plus la valeur.
Ah, sa valeur. La valeur d'une monnaie, ça dépend de la confiance qu'on lui accorde et de ce qu'on peut acheter.
Mm-hmm.
On prend un billet. Vous êtes commerçant, vous prenez un billet de 100 euros parce que vous avez confiance que c'est effectivement représentatif d'une valeur de 100 euros.
D'accord.
Si vous n'avez plus confiance dans ce papier, ben vous ne le prenez pas. Ça s'est déjà produit dans l'histoire.
Oui, tout
quand
à
il y a
fait.
Des hyperinflations ou quand il y a des manipulations monétaires, il y a des monnaies qui deviennent refusées par les utilisateurs à qui c'est destiné. Aujourd'hui, ça se complique. Hein.
Mm-hmm.
Vraiment, ça se complique et ça se simplifie pour certains. Elle devient virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, on ne la touche pas et à la limite, bientôt, même on ne donnera presque pas l'ordre. On donnera un ordre simplement dans le micro. Mettez-moi 200 euros sur mon compte maison. Et en face, on aura un robot qui le fera. Ça devient
oui.
du virtuel total. On
oui,
ne le contrôle
mais,
pas.
Mais comment savoir oui, comment, il faudra. Ceux qui ne maîtrisent peut-être pas la technique pourront peut-être être plus grugés facilement.
Bien sûr. Comme d'habitude.
Donc, on a pourri.
Comme d'habitude, celui qui maîtrise la technique, ben, c'est celui qui sera peut-être le moins grugé. Mais c'est aussi vrai dans le commerce. C'est aussi vrai lorsque vous achetez du matériel, un frigo ou une machine à laver, voire une voiture. Si vous n'y connaissez rien, bah, a priori, vous serez grugé.
Oui.
Quelque part, on va vous survendre le produit.
Donc, ce qui veut dire qu'avec ce système, le chômage peut être en hausse. Et l'environnement en prendra encore un coup dans l'aile.
Eh bien, certainement. À partir du moment où nos situations économiques se dégradent, on devient moins attentif à ceci ou à cela. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, du danger sur la planète. Mais pensez-vous, là, on est à la radio, pensez-vous à vos courses. Est-ce que quand vous avez fait vos courses, vous avez pensé, j'achète ça et pas ça parce que c'est dangereux pour l'environnement? Non, vous avez acheté ce dont vous avez besoin. C'est ce que je fais comme vous. Et ce qu'on a besoin. Et la réflexion par rapport à la planète, elle viendra peut-être un peu ailleurs, etc. Dans la mesure où on n'a pas des moyens très importants, ben notre choix est très limité. Et même, on peut le réduire à pratiquement rien. Donc, on dit, ben, il faut que j'achète la viande. Et laquelle on va choisir? Et qu'est-ce que j'ai dans le portefeuille? Est-ce que je vais choisir automatiquement une viande qui a été le bétail élevé loin de tous les produits qu'on met actuellement, etc. On ne se pose pas trop la question parce qu'on sait qu'elle existe, ce produit. Mais est-ce qu'on a les moyens de l'acheter?
Oui.
Il faut voir que par rapport à l'environnement, il y a une démarche qui peut exclure une partie de nos concitoyens. Il faut avoir les moyens, c'est un certain luxe. On le voit par rapport au transport. Lorsqu'on vous dit, ben, il faudrait mieux prendre ceci, moins de cela, faire du covoiturage, avoir une voiture qui consomme moins, etc. Oui, une voiture qui consomme moins, je suis d'accord, ça vaut combien? Des Et questions
oui.
de fond.
Oui,
c'est
oui,
pas
oui.
évident. Ça remet pas en cause la nécessité, certainement, pour notre planète. Mais ça crée des inégalités par rapport à ça. Et là, on est peut-être dans un domaine qui reste un peu virtuel quand même.
Tout à fait, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des formes de libre-échange? Il y a le CETA qui en était une forme. Est-ce que ça a toujours cours, au fait?
Ah ben, le libre-échange, ça a toujours existé dans la mesure où c'était une façon de business.
Oui.
Oui. où celui qui voulait en profiter le plus essayait de soumettre celui qui en profitait le moins. C'est vieux comme le monde. Dans nos régions européennes et autour de la Méditerranée, ça remonte très très loin. Même il y avait des peuples qui vivaient que de ça, que du commerce. Donc il fallait qu'ils imposent quelque part le libre-échange. Et souvent, on l'oublie aussi, et je trouve regrettable souvent qu'on ne fasse plus au niveau des histoires, de l'histoire dans les écoles, qu'on n'en parle pas suffisamment. Souvent, ce sont les obstacles au libre-échange qui génèrent des guerres. Par exemple, un pays. Ben, il estime qu'il accueille trop de céréales par rapport à ses agriculteurs. Il met des droits de douane, des obstacles. Ça lui fait du budget et puis ça freine l'arrivée, bien entendu. Oui, mais ceux qui avaient l'habitude de vendre, ils se trouvent démunis. Ils sont appauvris. Tiens, si on prenait les armes, si on montait au front. Le déclenchement de la guerre de 14, c'était une opposition, une concurrence entre les familles de la sidérurgie allemande et les familles de la sidérurgie française. Et c'est parti de là. C'est une question de concurrence. Je suis meilleur que toi, je veux vendre et tu n'as rien à dire. Eh bien, moi, c'est pareil. Et c'est la guerre, le motif premier, l'argument premier, le point de départ, il est là.
Oui.
Les guerres qu'il y a aujourd'hui dans le monde, on regarde ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe avec Trump. Ce président américain, c'est particulier pour nous. Bien, qu'est-ce qu'il se passe? Les importations françaises de ceci, de cela, étaient importantes.
Oui.
Et on disait, oui, on veut bien de la viande américaine, mais il faut qu'elle soit pas droguée, pas vaccinée, pas pleine de produits. On la voudrait propre. Il a dit, puisque c'est ça, je taxe les fromages français. Mesure de rétorsion. Que va faire le gouvernement? Ben, il va baisser la tête et il va dire, ben oui, bien sûr, ça marche. C'est la puissance. Mmh. C'est un allié. On ne se fait pas la guerre pour l'instant, bien entendu. Mais on est là, on est là. L'arme au pied, on pourrait dire. Quand on voit, alors ça c'est quelque chose de sensationnel qui s'est passé au mois de janvier, on a appris comme ça un soir, un matin, que Trump et les Chinois s'étaient mis d'accord pour arrêter cette guerre de protection, de barrières douanières, de droits de douane.
Alors qu'ils se faisaient presque la guerre, quoi.
Ils étaient. C'était une guerre commerciale pour l'instant.
Ah oui, ils étaient venus aux mains, quoi, quasiment.
Mais bien sûr. Quasiment. Et tout d'un coup, ils signent un accord, etc., qui présente un accord de paix. Pour moi, c'est faux. Ce n'est pas un accord de paix qui a été signé. À ce moment-là, au mois de janvier, c'était, disons, on se calme. On calme le jeu. D'abord parce que l'un, il part à l'élection. Il faut que certaines industries américaines puissent vendre, hein, que les ouvriers soient là, parce que sinon, il va perdre les voix. Et du point de vue des Chinois, eh ben, il faut qu'ils assurent sans trop de risques leur développement mondial.
Parce que
quand on parle de la Chine, c'est pas la même dimension. Pensez donc, nous sommes 67 millions de Français. Pour la Chine, un pays qui dépasse 1,7 milliard d'habitants. C'est quand même correct. Et c'est un pays que la nature a gâté au niveau de plein de ressources naturelles. Quand vous regardez vos portables, vos ordinateurs, il y a plein de minéraux précieux, très particuliers. Ça vient de Chine, il n'y en a que là. Donc pour revenir à la Chine, aussi ils ont dit calmer, on va signer, etc., qu'on puisse vendre en Europe et surtout aux États-Unis nos produits, et en particulier tout ce qui concerne l'électronique. Parce qu'à travers l'électronique, beaucoup disent qu'ils nous contrôlent et qu'ils savent tout de nous. On est très bien détaillés, très connus de tous les des services d'État de la Chine, ça.
D'accord.
C'est sûr.
Parce que c'est quand même une volte-face qu'ils ont fait à 180 degrés.
Mais voilà, c'est pour
même
ça que c'est pas la peine.
Même à 360.
Oui, c'était même à mourir de rire quand on a lu un peu leur communiqué. Ça aurait été négocié depuis plusieurs mois. On ne sait pas comment et quand, parce que vraiment, il y a encore un mois, ils s'envoyaient des techs, quoi. Hein,
oui.
Ça y allait. Eh bien, tout d'un coup, ils signent. Il y a peut-être urgence. Alors, c'est le Premier ministre qui est venu chinois, que personne ne connaît, bien entendu, hein. Le seul qui a de l'importance, c'est Xi Jinping. C'est le dictateur chinois qui a de l'importance, c'est tout. J'ai dit dictateur, il va falloir que je surveille mon portable s'il ne me l'infecte pas. Oui, on en est là. Hein. En Chine, c'est la prison. Hein. C'est ce que je viens de prononcer, en Chine, on m'attend à la sortie sur le parking, et c'est la prison, il faut le savoir. Hein. Ce n'est ni une démocratie finie, ni une demi-démocratie, c'est une dictature absolue, dont on n'a pas une idée. Bon, on revient à l'économie.
Donc, et le CETA, alors, c'est...
Mais le CETA, il est un peu parti dans les limbes.
Oui.
Un peu dans les limbes, mais il va revenir comme sujet. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait finalisé, mais il va revenir. Mais avec toutes ces bousculades.
Oui.
C'est passé au second degré en France dans le débat.
Et le Brexit ?
Ah,
le Brexit. Parce que le Brexit, ça pèse aussi dans notre économie.
Ben oui. Le Brexit, là, on est au premier mois de vécu du Brexit pour les Britanniques. Pour le premier mois, puisqu'il a été entériné et mis en place le 30 janvier, il ne faut pas l'oublier, au 31 janvier. Que se passe-t-il pour la plupart des habitants de Grande-Bretagne ? Eh bien, ils sont tranquilles pour l'instant. Parce que, en raison du Brexit, ils ont importé massivement tous les produits pharmaceutiques qu'ils n'ont pas dans leur pays. Il faut le savoir. Hein. Toute l'industrie pharmaceutique européenne se frotte les mains. Ils viennent de vivre des mois fastueux en termes de vente. Parce que les Anglais, dans le cadre effectivement de l'Europe, les marchandises circulent dans tous les sens, librement. Eh bien, les Britanniques, ils importaient énormément de produits pharmaceutiques venant d'Europe, France et Allemagne, mais en particulier l'industrie française. Ça a été enregistré et vu et déjà énoncé dans les médias. Hein. Les Britanniques ont acheté massivement tout ce qu'ils avaient besoin au niveau pharmacie, par exemple.
Donc, ils anticipent, en fait.
Bien sûr, l'homme anticipe, bien entendu. Hein. Ne pas oublier qu'en ce mois de février, peut-être qu'il va falloir penser à retenir une place au camping ou une chambre chez l'habitant pour les vacances de Pâques. C'est l'anticipation. Ça fait partie de l'être humain et de la façon de vivre. Le Brexit, l'application, pour l'instant, tout paraît normal. Des Anglais se félicitent, d'autres font toujours la tête et ne sont pas d'accord, en sachant que le point essentiel, là, lorsque j'enregistre l'émission, effectivement, nous n'avons pas le résultat, c'est l'élection législative en Irlande. Le Premier ministre, très particulier en soi, mais bon, c'est... Eh bien, a dissous le Parlement pour repasser à des élections. Parce que c'est extrêmement complet avec le problème de l'Irlande du Nord. Ils ont refusé, et l'Europe a refusé, que l'on refasse une frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc on a trouvé quelque chose qui est vachement amusant et très rigolo, c'est-à-dire que la frontière, en fait, entre l'Europe et la partie qui a fait le Brexit, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la frontière sera en mer. On peut imaginer un cargo qui transporte des marchandises d'Angleterre vers l'Europe et qui sera contrôlé par des douaniers en mer. Pour éviter la renaissance du conflit de nationalité en Irlande.
D'accord.
Et ça fait sourire un peu les spécialistes, mais semble-t-il, ça va fonctionner. Voilà. Ensuite...
Et les Irlandais, eux, qu'est-ce qu'ils disent ?
Les Irlandais, ils étaient contre, mais pas tous. Et il y a une partie qui sont proches des Anglais, en particulier en Irlande du Nord, et eux étaient pour. Mais ils n'étaient pas pour la frontière, pour ne pas revenir à cette réalité. Un mur, c'était un mur pour ceux qui sont allés, c'était un mur en béton, en parpaing, qui séparait, qui coupait les quartiers. D'un côté était Irlandais du Nord, donc Anglais, de l'autre était Irlandais. Et il y a eu combien de morts ? Il y a eu combien de drames ? Et oui, ils ne veulent pas. Mais la deuxième chose, et ça va jouer certainement, c'est toute l'Angleterre n'est pas favorable au Brexit, et en particulier les Écossais. Alors qu'est-ce que ça va donner ? Ils sont capables de se séparer, de créer un pays, les Écossais. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'ils nous vendent, les Écossais ? Eh bien, ils nous vendent, dans le commerce européen...
Des kilts ?
On ne va pas parler, évidemment, des kilts, mais on ne va pas parler whisky, bien sûr. Mais on a plein d'usines européennes qui ont des filiales en Écosse.
Oui.
Et oui, l'employé écossais est un employé de qualité et qu'on ne paye pas trop cher. Alors, il faut le savoir.
Revenons un petit peu aux USA et à la Chine. Est-ce que la Chine n'est pas à la recherche d'une autorité économique mondiale ?
C'est une question un peu piège, Madame Gisèle, mais très réelle. C'est-à-dire que la Chine est en train de devenir, c'est certainement quelque part son but, le patron du monde politiquement. Ça passe par le commerce, bien entendu. Ça passe par les mêmes armes et le contrôle, etc. Et la lutte d'influence. On l'a peut-être déjà dit à Radio Galaxie il y a plusieurs années, avec des personnes venant d'Afrique, par exemple, qui étaient interviewées. La Chine a développé une présence énorme dans tout le continent africain. Que peu de gens... on n'imagine pas ce que c'est. Parce qu'ils arrivent dans ces pays pauvres. Nous, on y va et on met des militaires pour les sauver. Pourquoi on ne laisse pas se débrouiller aussi? Ça pose ce type de questions. Et les Chinois, c'est simple. On va vous aider, mais vous aider, c'est pas l'armée. Hein. On arrive, le béton, les poids lourds, les ouvriers chinois, attention, hein. Ils emploient peu localement. Et on va vous faire une industrie, un barrage, une autoroute, un stade, tout ce que vous voulez, en avant la musique. Et éventuellement, on va vous acheter le port. Hein. On va le faire fonctionner, hein, ça, au bénéfice de nos grandes sociétés de transport. Et progressivement, ils ont envahi toute l'Afrique et ils font les investissements. Mais ils sont très astucieux. Ils ne font pas que des investissements de style qui peuvent produire quelque chose. Ils font des investissements à caractère général du style eh bien, on va vous financer l'université, ouais, on va vous financer un hôpital. Voyez. Donc ça fonctionne dans ces pays qui d'abord ont une natalité très forte. Hein. La France, vous le savez, hein, nous sommes... En 2019, on est passé vraiment à 1,7 enfants par femme dans ce taux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une natalité de renouvellement de la population. Mmh. On est dans un taux de natalité moins catastrophique que les Allemands, il faut le dire, ou que les Anglais. Mais en fait, notre population nationale, s'il n'y a pas d'arrivée de personnes venant d'ailleurs, eh bien, elle va s'effondrer. Donc, l'air de rien, si la population... s'effondre, qui va payer la retraite des vieux? On peut se poser la question aussi. Parce que s'il n'y a plus de travailleurs, voilà. Mais ça, bon, c'est un autre problème. La Chine a ce leitmotiv économique. Oui. Oui. En business avec vous, alors là, ils sont hyper compétitifs. D'ailleurs, ça se voit aux États-Unis en particulier. Les vêtements aux États-Unis, l'essentiel de ce que portent les gens, ça vient de Chine, point barre. En Europe, non, pas encore. Hein, parce que même il y a des mouvements anti-chinois quelque part. J'achète pas parce que ça vient de Chine. Alors je vois, ça vient du Vietnam, donc j'achète. Le seul problème, ça vient du Vietnam, mais c'est une entreprise chinoise. Ou ça vient de Birmanie, mais c'est une entreprise chinoise. Ou du Bangladesh, c'est une entreprise chinoise. Et c'est eux qui, compte tenu des coûts de main-d'œuvre, entre autres, c'est eux qui produisent le moins cher. Mm-hmm. Donc ils deviennent une puissance économique incontournable.
Est-ce qu'ils se font aider dans leur puissance par les Asiatiques, la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan?
Ils sont en concurrence.
Ah, en concurrence, ils ne se font pas
aider. Dans certains cas.
Oui.
Et en certains cas, Hong Kong, c'est... Attention, il ne faut pas... Hong Kong, ce n'est pas indépendant de la Chine.
Oui.
C'est un morceau de Chine qui a un statut spécial.
Oui.
Et statut qui est en train de disparaître et qui, à mon avis, ça va se terminer dans un super bain de sang effroyable et ça sera liquidé.
Oui.
Il hésite, apparemment. Donc, il hésite. Il envoie beaucoup de troupes.
Oui.
À Hong Kong, ça se remplit de militaires chinois.
Donc, comme ils vont faire à Hong Kong,
à peu dire, non,
on
c'est
peut
pas
imaginer
pareil.
Qu'ils peuvent faire pareil dans le monde?
Peut-être un jour. Je n'ai pas compétence à vraiment à parler de là, hein, sur ce point-là. Mais on peut imaginer que si on n'obéit pas aux ordres, ça se terminera par l'armée.
Oui.
Il se passera autre chose.
C'est peut-être un petit peu aussi ce qu'il y a en Corée du Sud.
La Corée du Sud, elle est très indépendante. Elle a mené son développement, etc. C'est un pays qui est hyper compétitif dans certains domaines, mais c'est aujourd'hui un petit pays, quoi, comme la France.
Est-ce qu'ils ont un poids économique sur la Chine?
Non, du tout.
D'accord.
Ils n'ont aucun poids économique. La Chine a ses propres milliardaires, ses propres multinationales que l'État aide. Ce qui est un peu humoristique, les milliardaires chinois sont tous au comité central du Parti communiste chinois.
Bien sûr.
Ce qui paraît un peu paradoxal. Hein, quand on voit l'histoire des mouvements politiques dans le monde, ça fait sourire par moments. Et les Chinois, vous avez des exemples, les Chinois refont la route de la soie. Mais ce n'est pas un chemin pour les marcheurs du centre de loisirs ou pour ceux qui font du vélo. Hein, c'est une autoroute. Et parallèlement, il y a une voie ferrée. Et ça y est, ils traversent les États, les uns après les autres. Ils vont être accueillis les bras ouverts en Turquie. Et ça y est, ils seront en Europe. Il y aura bientôt un train je vous dis, un train fabuleux, même moi j'aurais envie de prendre, qui partira de quelque part en Europe pour aller à Pékin. Que de la voie ferrée, extraordinaire. Mais la voie ferrée, on voit les voyageurs, mais il faut penser aux conteneurs qu'il y a sur les plateformes. C'est ça, ils arrivent, la route de la soie se refait. Et savez-vous, il faut le rappeler, par exemple, les Chinois ont acheté le port du Pirée aux Grecs.
Ah oui, carrément.
Ah ben oui. Et ils ont acheté deux ports à M. Salvini lorsqu'il était au pouvoir en Italie. Extraordinaire. Trieste est à eux. Et un autre port sur l'Adriatique, c'est eux. C'est eux qui patrouillent, c'est eux qui investissent, c'est eux qui gèrent. Et d'ailleurs, ils ont déjà fait venir leurs travailleurs chinois. Ce qui est un avantage. Quand la Chine met ses travailleurs quelque part, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais le Chinois est très famille. Il est très culturel de sa culture. C'est-à-dire, le Chinois, il aime manger chinois. Il aime vivre avec une Chinoise. Ou la Chinoise aime vivre avec un Chinois. Et il aime qu'ils aient des éducations chinoises, avec les fêtes chinoises. Ils sont très comme ça, hyper sympas. Ils sont fantastiquement sympas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils développent des communautés énormes. Énormes. C'est pour cela aussi que Trump a peut-être signé une trêve de la paix à quelques mois des élections en Amérique. Parce qu'il y a combien de millions de Chinois, de génération en génération, qui vont voter? Est-ce que, quelque part, il est allé chercher aussi des électeurs? Ce qui n'étonnerait pas la plupart des experts en politique. Moi, je ne peux pas me prononcer sur le sujet.
Oui, en effet, oui. Je comprends.
Puisqu'on est sur le libre-échange, le libre-échange, il a été rétabli, il faut le savoir, après la Deuxième Guerre mondiale, très simplement, pour faire un monde de paix en Europe. On pouvait circuler, acheter. Combien d'entre nous, dans notre Volvès, nous allons passer des vacances de temps en temps en Espagne? Et nous ramenons des oranges ou d'autres produits, etc., etc. Et nos Espagnols viennent visiter Toulouse ou vont à Albi. Mais bien sûr, c'est ça le libre-échange. Et en Europe, c'est en train d'être fragilisé entre le Brexit et ceci et cela. Et cet espace de paix, est-ce que pour nous, est-ce qu'il ne va pas disparaître progressivement? Et ça viendra donc un espace de guerre. Et là, je suis un pessimiste. Tous ceux qui m'écoutent depuis longtemps ou qui me connaissent le savent. Je suis toujours un peu pessimiste et j'ai toujours cette crainte. Et je dis, cette économie, toutes ces théories économiques qui ne sont pas révélées et qui ne servent à rien dans la réalité, bien, demain, est-ce que dans le libre-échange, c'était une bonne chose peut-être? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans un monde d'affrontement armé tel qu'on l'a connu et dont le monde est plein? Le protectionnisme, c'est ça. L'inverse du libre-échange, c'est la protection. Le protectionnisme. Alors on va dire, on fait prendre telle mesure pour protéger nos agriculteurs, bien sûr. Pour protéger nos industriels à voiture, bien sûr. Pour protéger nos industriels qui font de l'acier, bien sûr. Mais au détriment de quoi? Et quel est l'effet qu'on va avoir sur notre pays? On est ensemble. Est-ce qu'il ne faut pas construire un pays, un grand pays, un peu de paix ensemble? Où on aura le bonheur de pouvoir vivre et qu'on fera pour nos enfants. Est-ce qu'on aura la force de le faire? Nous sommes dans cette année bizarre, le 2020. Est-ce que d'ici la fin de l'année, on aura progressé en Europe vers le partage, la paix, le respect? Et surtout qu'on puisse s'occuper de tous ceux qu'on laisse à la traîne dans nos populations. Bonne soirée à tout le monde.